Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Nous sommes sur Aligre FM 93.1 dans La vie est un roman. Nous sommes mardi matin, il est 11h et nous sommes en direct. Et aujourd'hui, nous allons avoir le plaisir d'écouter un échange entre Alain Amarilio et Jean-Yves Jouannet qui vont nous parler d'un correspondant de Marcel Proust. À toi, Alain.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Correspondant éminent et pourtant assez méconnu. Bonjour à tous, bonjour Jean-Yves Jouannet. Vous êtes critique d'art, commissaire d'exposition. Vous animez à Beaubourg depuis 2008 l'encyclopédie des guerres, sur laquelle j'espère on aura le temps de revenir. Et vous êtes auteur de nombreux livres avec des thèmes récurrents comme l'art en général, les châteaux d'eau, les châteaux de sable aussi, les barrages de sable, les ruines. Et aujourd'hui, vous venez nous présenter une correspondance inédite donc entre Félicien Marbeuf et Marcel Proust, qui est paru récemment chez Vertical. Et notre émission sera d'abord consacrée à cette figure oubliée. Voilà, plus de 20 ans peut-être que vous avez entrepris finalement un long travail pour rétablir la mémoire de Félicien Marbeuf, et on peut dire, en exagérant à peine, qu'à ce moment-là, l'occurrence de son nom était peut-être surtout située dans la bibliothèque de Babel, mais à part ça, on rencontrait plus ce nom qui était oublié. Et vous avez commencé, je crois, dans Artiste sans œuvre, c'est là que pour la première fois vous avez entrepris ce travail, qui était initialement paru chez Azan, et qui a été réédité depuis aux éditions Verticales. Et depuis l'apparition de ce livre, le réseau des traces que Marbeuf a pu laisser et que vous avez pu remettre à jour n'a cessé de s'étoffer, que ce soit par des livres, des expos, des articles. Et il se déploie encore, et d'une manière assez substantielle, avec la publication de cette correspondance, dont vous aviez déjà utilisé quelques éléments, ici ou là, notamment dans Artiste sans œuvre. Et d'une certaine manière, si nous réussissons cette émission, elle viendra à son tour enrichir ce réseau, cette mémoire que vous avez ressuscité. Mais d'abord, peut-être, vous pourriez nous brosser un portrait rapide de Félicien Marbeuf, sans forcément entrer dans cette correspondance.
Oui, dire deux, trois choses qui permettent de le situer. En précisant que il y a tant d'aspects de ce personnage que je ne connais pas encore, il demeure très mystérieux à mes yeux, alors que ça fait en effet des années et des années que je planche sur le sujet. Il est né en 1852, il meurt en 1924, précisément 2 ans après Marcel Proust. Et c'est une espèce de dandy. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un dandy au début du XXe siècle? C'est quelqu'un qui ne travaille pas, a priori. Il est marié à une femme qui s'appelle Madeleine, et le prénom de Madeleine a son importance dans La recherche du temps perdu de Proust. On comprendra pourquoi tout à l'heure. Et a priori, il n'a pas écrit. Il n'a rien écrit du tout. Et il apparaît très vite comme, et c'est le surnom qu'on lui donne, le plus grand écrivain sans œuvre. Alors comment on devient le plus grand écrivain sans œuvre? Ça, c'est l'un des mystères de sa vie. Mais il a à son actif néanmoins une correspondance, une seule, puisque j'en connais pas d'autres, avec Marcel Proust, vous l'avez dit tout à l'heure, qui est une correspondance qui s'enclenche en 1896 précisément et qui s'achève avec la mort de son correspondant, Marcel Proust, en 1922. Donc c'est précisément 54 lettres que Félicien Marbeuf adresse à Proust, où il est question de beaucoup de choses assez passionnantes, des choses assez inintéressantes aussi, c'est très comme toute correspondance, et puis à peu près autant de lettres de Proust qui lui répondent. Voilà. Donc c'est par cette correspondance qu'il en vient à exister dans le champ littéraire, et c'est le moyen de l'apercevoir quelque part, parce qu'autrement il aurait totalement disparu. Voilà, donc corps et bien dans l'histoire de la littérature. Il a, pour préciser, un modèle ou un prototype, ou c'est l'histoire de Jacques Vacher. Jacques Vacher, qui meurt en 1919, à 23 ans, et qui devient, par André Breton, un très grand écrivain sans œuvre, puisque quand vous ouvrez un dictionnaire de la littérature, vous trouvez Vacher, Jacques, 1895-1919, écrivain français. Or, Vacher, comme Marbeuf, n'a jamais rien écrit de sa vie. Voilà. Donc le mystère qui préside à ces deux existences littéraires.
C'est ça, et qui est en partie élucidé par la publication de cette correspondance. Mais pour le moment, j'en reste à Artiste sans œuvre pour essayer aussi de dresser le portrait de la manière dont ces traces sont revenues à jour et sont en train de revenir à jour. Et dans Artistes sans œuvre, donc, qui est constitué de brefs portraits, d'anecdotes, vous faites revivre des artistes plus ou moins oubliés, avec une préférence pour les vies, je vous cite, les vies peu illustres d'artistes qui n'ont pas produit d'objets, mais n'en ont pas moins exercé une influence majeure sur leur époque. Alors on voit avec ce que vous venez de rappeler qu'on est en plein dans ce sujet. On peut dire qu'ils ont fait de leur vie une œuvre d'art et n'ont pas été obsédés par la production. Vous distinguez différentes catégories de ces auteurs, des silencieux, des copistes, des effaceurs, et vous rangez dans cet ouvrage Félicien Marbeuf dans la catégorie de l'ascétisme olympique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cet ascétisme olympique? Peut-être parce que c'est lui qui le pousse à un point extrême.
Oui, extrême, oui. C'est-à-dire que je dois préciser une chose, c'est que la manière dont je vois Marbeuf aujourd'hui a bien changé.
Voilà.
Parce que je découvre des choses sur sa personnalité et voilà, je le trouve plus agréable aujourd'hui. C'est un personnage qui est plus apaisé, plus. Et je précise tout de même une chose quant à l'ambition qui était la mienne quand j'écrivais les artistes sans œuvre, quand j'essayais de les décrire, de les évoquer. Certains à l'époque m'ont dit mais c'est un livre très puritain parce que d'une certaine manière il nous alerte sur la surproduction, l'idée que les artistes produisent trop, il y a trop de livres, il y a trop de... Non, il n'y a jamais assez de livres, il n'y a jamais assez de films, il n'y a jamais assez de pièces de théâtre et d'opéra et de... Non, il faut qu'il y ait de l'art et toujours de l'art et encore plus d'art. Chacun a après fait son choix. Néanmoins, je pense que il faut aussi apprendre à respecter les œuvres discrètes. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres très visibles, des œuvres exubérantes, des œuvres qui s'étalent, mais c'est pas du tout péjoratif ce que je dis là. C'est voilà, des œuvres hyper visibles qui tendent à se montrer, et d'autres qui sont plus discrètes, voilà, plus timides, plus timorées. Et ces œuvres-là, elles méritent tout autant le respect que les autres. C'est exactement ce principe qui est à l'œuvre dans Artistes sans œuvre, justement.
Alors, comment est-ce qu'on pourrait expliquer l'oubli dans lequel, finalement, la mémoire de Marbeuf a été plongée après sa disparition en 1924? Un oubli pratiquement total.
C'est un oubli parmi tant d'autres, dans le sens où chacun d'entre nous peut réécrire une histoire de la littérature ou de l'art selon des critères qui seront les siens et qui... Voilà. Et cette histoire de la littérature, elle sera tellement différente que celle qu'on apprenait dans Lagardy Michard. Donc, Lagardy Michard n'est pas un scandale en soi, c'est une hypothèse de la littérature, d'une histoire de la littérature qui vaut ce qu'elle vaut. Mais moi, je pense beaucoup à... Et j'y songeais beaucoup en écrivant Artistes sans œuvre, à Paul Valéry, qui énonce ceci en 1937, et qu'il serait tout à fait envisageable et recommandable d'imaginer une autre histoire de la littérature qui pourrait tout à fait faire l'économie du nom des écrivains. Alors, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que là, Borges est déjà inventé. C'est-à-dire que, en effet, la littérature, ce sont des récits, ce sont des histoires, des légendes, par exemple, des mythes. On ne connaît pas l'auteur ou l'autrice ou les auteurs des grands poésies védiques. On ne connaît pas l'auteur du Mahabharata, le plus grand poème au monde. On ne connaît pas... Alors, Marbeuf, d'une certaine manière, existe davantage que Homère. Et il existe un peu moins que Yann Moix, dont on se dit, ça serait bien qu'il n'existe pas du tout, ce dernier, par exemple. Donc, la manière dont les auteurs existent dans nos esprits et dans nos bibliothèques est très variable. Les auteurs existent avec beaucoup d'intensité, et puis ils s'atténuent. Moi, j'ai adoré Huysmans, par exemple. Huysmans a été mon grand auteur quand j'étais adolescent. Il existe moins de romans aujourd'hui dans ma vie, mais voilà, si j'écrivais aujourd'hui une histoire de la littérature, Huysmans aurait peut-être moins de place que si j'avais écrit cette histoire de la littérature à 18 ans. Et donc, tout ça pour dire que Marbeuf, il existe pleinement, sans qu'on sache, dans La recherche du temps perdu, puisque c'est ce qu'on découvre dans cette correspondance, qu'il est en grande partie l'auteur du plus grand roman du XXe siècle.
Donc il y a des intensités d'existence des artistes, de manière générale, disons, dans la sphère commune, partagée, et par ailleurs, pour chacun d'entre nous, on a aussi on peut faire varier ces intensités comme avec des...
Oui,
des
et puis alors pour préciser une chose, on peut inventer les auteurs aussi dont oui. on a besoin.
Oui.
C'est-à-dire que, mais là le terme inventer, moi je l'utilise dans le sens où on en a l'usage dans une discipline des sciences humaines qui est l'archéologie. C'est-à-dire quand on dit qu'un tel, un tel a découvert un site, la grotte Chauvet ou la grotte de Lascaux, on dit qu'on l'a inventé.
C'est vrai.
Et c'est étrange et c'est beau. Ouais, ouais. Cette idée que découvrir, c'est inventer et inventer, c'est découvrir. Eh bien, j'ai l'impression de faire la même chose avec Marbeuf, de le découvrir en l'inventant et de l'inventer en le découvrant. Et donc, c'est... Et puis, pour préciser la manière dont se met à exister un écrivain qui n'existait pas ou très peu, je ne suis pas le seul à l'œuvre, vous l'avez dit tout à l'heure. Moi, l'idée de faire exister Marbeuf, ça ne m'intéresse pas de le faire tout seul. Mmh. Il y a eu une exposition en 2009, oui. Il y a beaucoup de propositions. Pascal Quignard, par exemple, oui. a inventé le lien, ou a redécouvert le lien qui unissait Félicien Marbeuf avec Louise Michel. Bon, voilà. Donc c'est lui qui, dans deux livres de Dernier Royaume, il raconte cette histoire d'amitié entre Félicien Marbeuf et Louise Michel. Moi, je ne le savais pas. Par exemple, c'est lors de la première exposition que j'ai montée autour de Félicien Marbeuf, qui était à la Fondation Ricard en 2009, et j'avais invité Christian Lacroix. Et Christian Lacroix avait fait réaliser une espèce de salon bibliothèque qui était celui de la dernière maison de Marbeuf à Glooscap, qui est une ville du sud du Canada. Et il avait installé dans un dressing de cette maison une robe de mariée. Je me dis, mais... Et quelle est cette robe ? Et il me dit, mais c'est la robe de mariage de la femme de Marbeuf. Je ne savais pas qu'il était marié. Moi, c'est... Voilà, ce que je veux dire par là, c'est... Moi, j'attends beaucoup de ce qu'on me raconte de Marbeuf aujourd'hui, de ce que la manière dont les gens m'éclairent sur des grandes parts d'ombre. Et c'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure par dire que plus on sait des choses sur un personnage, plus le mystère augmente aussi. Moi, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais moi, il y a deux, trois choses que j'aimerais savoir de Marbeuf que je ne connais pas.
C'est ça. Alors, c'est vrai que pour ceux qui avaient lu les premiers éléments que vous aviez portés à la connaissance du public, le nom de Louise Michel, quand Quignard l'a cité, était totalement surprenant, parce qu'on imaginait quand même une sorte de personnage un peu hors du monde, enfin, qui avait pris un immense recul, qui avait même changé de continent. Et puis alors, Louise Michel, c'est pas tout à fait le même registre.
Non. Non, non, en effet. Et alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas d'abord quelle était la nature de ce lien. Parce qu'elle parle d'amitié. Est-ce que c'était des. Est-ce que c'était une connivence idéologique ? Est-ce que c'était sexuel ? Est-ce que c'était. J'ai pas. Voilà, donc ça fait partie des énigmes. Pascal Quignard a voulu éclairer un pan de l'œuvre de Marbeuf, de la vie de Marbeuf, mais ça n'ajoute qu'au mystère, selon moi.
C'est vrai. Et. Si on revient au début, alors qu'est-ce qui vous a... Vous l'avez découvert par hasard, Marbeuf, ou qu'est-ce qui vous a mis sur la piste d'un personnage
dire que je l'ai inventé, d'une certaine manière. C'est que je l'ai inventé, mais au sens où... j'aime pas du tout le terme de supercherie. ou de mystification, qui tendrait à expliquer qu'on remplace une part de vérité par une part de mensonge. Non, Marbeuf, pour moi, je l'ai inventé quand j'avais 18 ans, en fait. Et je l'ai inventé parce que j'en avais besoin. J'en ai besoin et j'en avais envie. Si j'avais pu vivre 1750 ans sur cette terre, je me serais dit qu'en effet, j'aurais eu quelque chose de le rencontrer dans une bibliothèque, quelque part, parce que, évidemment, des artistes sans œuvre, on est entouré de cela, et nous sommes tous, en quelque sorte, des artistes sans œuvre. Donc c'est pas... Mais j'ai voulu le synthétiser, en synthétiser cette figure du grand artiste sans œuvre. Voilà, et je lui ai donné un nom, je lui ai donné un état civil, et puis sa vie, elle s'écrit au fur et à mesure, et de manière collective. Donc oui, je l'ai inventé, mais encore une fois, pas pour abuser les gens, parce que j'ai des très mauvais souvenirs enfant de ces émissions de télé qui s'appelaient les caméras cachées, où des gens se ridiculisaient, étaient filmés à leur insu, et je ne supporte pas cette idée que je parlerais de Marbeuf à quelqu'un qui s'écrirait « Ah oui, mais j'ai tout lu, je connais bien, enfin j'aurais... » Voilà,
oui, vous ne voulez pas piéger qui que ce soit.
Très très douloureux et d'inconfortable, non. Alors Marbeuf, il sert à cela, il sert à remplir un vide dans ma bibliothèque. Il occupe une place dans ma cosmologie littéraire, et il y avait une place vacante et c'est lui que j'ai mis à cette place-là.
Et si on revient sur la chronologie, alors en 97, donc c'est la première publication d'Artistes sans œuvre, et là vous y citez ce que vous appelez les écrivains shandy, mais ça en fait c'est pas une expression de vous, je crois, parmi lesquels vous rangez Marbeuf, et vous lui consacrez pour la première fois un chapitre. Alors qui sont ces shandy et d'où vient cette idée ?
Les shandy sont une communauté, voire une secte, oui, d'écrivains et d'artistes, inventés, créés par Enrique Vilamatas.
C'est ça.
Donc un écrivain espagnol, barcelonais, voilà, précisément, qui a publié beaucoup de livres autour de ce qu'il appelle l'agraphie, des écrivains qui n'écrivent plus, qui écrivent moins, qui cessent d'écrire pour mille raisons. Et Marbeuf, de fait, rentre dans cette grande famille des shandy et des écrivains qui n'écrivent pas. Les shandy désignent par là, en fait, une famille assez heureuse d'artistes qui préfèrent la vie à l'art, d'une certaine manière, et qui préfèrent ne pas se charger, se surcharger d'un fardeau artistique. Donc ils préfèrent, comme Duchamp, mettre toute leur œuvre dans une valise, plutôt que les grands déploiements, les grands déferlements médiatiques. Et voilà. Donc en fait, on comprend bien que cette discrétion de Marbeuf n'est pas qu'une discrétion, c'est aussi une espèce de philosophie épicurienne de la vie, à savoir que l'art, s'il rend la vie plus importante que l'art, ou plus belle que l'art, comme diraient certains, ne vaut pas d'empiéter sur ce qui fait vraiment la vie, c'est-à-dire l'amour, la tendresse, l'amitié et le quotidien.
Donc une certaine modestie.
Oui. Ce qui n'est pas minorer le rôle de l'art dans nos vies, mais ce qui est le fait de majorer ce qu'est la vie dans nos existences.
Et précisément, Enrique Vilamatas, quelques années plus tard, donc en 2000, écrit Bartleby y Compañía, si on le dit en espagnol, et il donne quelques éléments sur Marbeuf, et il le compare à Clément Cadou. Alors là aussi, c'est assez frappant, il y a des parallèles qui s'imposent. Et il ajoute donc que c'est bien dans Artistes sans œuvre qu'il a connu Marbeuf. Votre livre l'a marqué, d'ailleurs il l'a préfacé dans son édition la plus récente chez Vertical. Alors le cas Clément Cadou, sur lequel vous revenez aussi, vous pouvez peut-être nous le raconter.
Oui, parce que c'est... Je finis moi-même par m'y perdre. C'est un jour où j'ai proposé à Enrique Vilamatas de d'écrire ensemble une vie de Clément Cadou, qui est un écrivain imaginaire, qui avait ceci de particulier de se prendre pour un meuble. On retrouve ça chez Félicien Marbeuf. Je peux raconter en deux mots en quoi, parce que Marbeuf s'est toujours identifié à un tabouret. C'est ça. En fait, parce que ses parents étaient très proches de l'auteur de Madame Bovary, voilà.
Flaubert.
Ouais, tout simplement, je voulais savoir si vous suiviez bien. Et Marbeuf était très intimidé, enfant et adolescent, par l'auteur de Madame Bovary. Et Flaubert ne lui adressait jamais la parole. Et ce que craignait plus que tout Marbeuf, c'était que Flaubert lui adresse la parole. Parce que là, il pense qu'il se serait décomposé, intimidé, etc., aurait volé en éclats. Se disait, mais qu'est-ce que j'aimerais être, ce tabouret qui siégeait, justement, c'est le cas de le dire, au fond du salon de ses parents. Il dit, au moins, Flaubert n'a jamais été tenté ou n'a jamais songé à s'adresser à ce tabouret. Et d'ailleurs, ce tabouret deviendra une espèce de blason, puisqu'on le voit dans l'ex-libris de la bibliothèque de Marbeuf. C'est un tabouret qui supporte des livres. Et donc, Marbeuf a rêvé d'être un tabouret dans sa vie. Et donc Clément Cadou, lui, se prenait pour un meuble. C'était moins précis, c'était un meuble en général. Mais ce que je précise, c'est que, et ça me vient à l'esprit, c'est que Enrique Villamatas, je ne l'ai jamais rencontré physiquement.
Ah bon ?
Donc on en revient à cette chose-là, c'est que comment les écrivains existent dans nos vies ? Moi, Enrique Villamatas, je l'ai aperçu à Beaubourg un jour. J'ai raconté que je l'avais rencontré, mais on ne s'est jamais vraiment rencontré. On ne s'est jamais parlé, en tout cas. Et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça qu'il soit comme une espèce de Marbeuf dans ma vie. Enfin,
vous correspondez, c'est ça ?
On correspond, et puis surtout, on... Oui, oui.
Et vos livres se correspondent aussi.
Voilà, on correspond par préface ou par... par exemple, là, il y a eu un festival il y a quelques années à Barcelone qui devait en faire l'ouverture. Et puis, il m'a dit, je ne serai pas là. Est-ce que Jean-Yves Jouannet peut venir ? J'étais à Barcelone et je pensais le rencontrer. En fait, il était à Paris. Donc, c'est assez joli. Et puis, pour le coup, c'est toujours pareil. On a les gens qu'on admire, on n'a pas envie de les décevoir. Donc... Je pense que mes livres sont plus intéressants que moi-même. C'est pas une pause, c'est on a toujours ça. C'est-à-dire que je préfère exister à ses yeux grâce à ce que j'invente de Marbeuf que grâce à une discussion qu'on pourrait avoir dans une trattoria. Enfin, je sais pas. Enfin, j'ai peur de la déception, enfin de sa déception. Donc c'est très bien comme ça.
Alors ça, c'est vraiment frappant parce que c'est une des choses auxquelles on pense sans arrêt quand on lit la correspondance entre Marbeuf et Proust, c'est que on ne sait pas si ça attire ou si c'est vite, finalement, puisqu'à plusieurs moments, ils sont tout près de se croiser. Et
vous avez remarqué, ils ne se rencontrent jamais physiquement.
Jamais physiquement.
Aucun moment.
Alors que vraiment, les occasions, enfin bon, elles ne sont pas très nombreuses, mais on se dit que ça va se faire. Ça crée d'ailleurs une espèce de tension dans leur vie, puisque bon, là, j'anticipe, je voulais venir après sur la correspondance, mais... Il y a une tension, me semble-t-il, dans cette correspondance parce que finalement, il y a une attente de la part de Proust qui attend une sorte de secret ou de révélation que Marbeuf devrait lui faire. Et c'est un peu comme ça que la correspondance... En tout cas, c'est un des moteurs de ces échanges. Et finalement, ça prend très longtemps. Et on se dit, enfin, on s'attendrait à ce qu'ils se rencontrent. Et donc, finalement, ce que vous venez de décrire avec Villamatas, c'est un peu du même ordre.
C'est oui, mais j'y pense maintenant que vous me le signalez. C'est les mêmes histoires parallèles, en fin de compte. Et puis, il y a toujours cette interrogation. Enfin, et on en vient à ce que nous apporte la vie, à ce que nous apporte l'art. C'est toujours, il y a toujours ce doute. Est-ce que rencontrer les gens va apporter davantage ? On a peur d'être déçu.
Ou retirer, oui.
C'est ou ça. Retirer, ouais. Oui, ou annuler. Ou...
Et là aussi, on retrouve cette idée d'intensité de présence, parce que finalement, à quel moment cette intensité est-elle maximale ? C'est pas forcément lors d'une rencontre physique.
Non. Il faut que cette rencontre, alors, elle soit tout à fait accidentelle.
Oui.
Il faut qu'elle soit de l'ordre du trébuchement, de l'inattendu, et que quelque chose s'enclenche là, mais de manière inopinée et pas du tout préméditée, parce que c'est trop d'angoisse, c'est trop de présupposés. Et... Non, il faut que tout ça relève de l'accident. Autrement, il ne faut pas forcer les choses, je crois.
Alors là, on peut penser à la rencontre entre... Est-ce que Proust a rencontré Joyce ? Je crois bien. Il n'aurait rien trouvé à se dire, c'est ça ? Tu peux nous...
Alors, ils étaient dans une voiture, il y en a un qui voulait baisser la vitre et l'autre qui voulait la fermer. Ils étaient à l'opposé, vu que Joyce était le type scandaleux par excellence et puis foireur, quand même. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui se couche sous toute sa vie, qui est irlandais. Et Proust est quand même l'image même de quelqu'un qui minote et qui a un châle et qui est... enfin, qui est l'exemple même du type qui a une maladie somatique, qui fait attention à lui, qui fait des choses invraisemblables, genre faire venir un quatuor à cordes dans sa chambre la nuit pour se faire jouer les quatuors de Beethoven, ce qui n'est quand même pas une gratification évidente. Tandis que Joss est debout sur la table en train de chanter la Marseillaise au Fouquet's, aux Champs-Élysées, ce qui est quand même pas rien, ou qui fait de la provoque en disant du bien d'Hitler pour faire chier la salle et pour montrer qu'il en a, quoi. C'est, et je sais pas, quand il était à Trieste, son frère le ramenait à la maison en le portant comme un sac sur son épaule. Hein, et son frère a écrit un très beau livre. Et donc on a les deux pôles opposés de la grande littérature du XXe siècle, le type totalement replié et le type qui est totalement présent à son temps. Par exemple, Joss rêvait de faire une pièce de théâtre, c'est-à-dire ce contact direct avec le public. Il payait sa tournée, on peut le dire. Oui. Tandis que Proust était quand même un peu dans la rétention au moment de payer sa tournée. Si on le compare, je ne sais pas, sur sa sexualité, par exemple, à André Gide, on a un rapport, et là aussi, extrêmement différent. C'est l'exemple même de l'intériorité. Je pensais à un truc marrant sur cette problématique de la disparition, ou tout ce côté fluxus, la vie, l'art, etc., etc. J'ai fait une belle émission avec Mercadet sur Picabia. Et ce qui m'a le plus impressionné dans la grosse biographie qu'il vient d'écrire sur Picabia, c'est que dans sa correspondance sentimentale, les phrases n'étaient pas de lui. On a cette histoire de détournement de Debord. Il est chaud, hein, des fois il est bigame, enfin c'est vraiment l'histoire de... C'est un petit comme Picasso, donc c'est un grand séducteur et il consomme beaucoup de dames et tout ça, mais vraiment, c'est l'histoire de sa vie. Et il fait des spectacles au casino. Ça aussi, c'est quelqu'un qui paye à Nice. C'est aussi quelqu'un qui paye sa tournée, qui est dans le monde. Et quand il écrit une lettre d'amour, il met des citations Nietzsche en guillemets dans ses lettres. Et la schizophrénie totale, c'est très étrange. Parce que c'est l'effet Cravant, parce que c'est donc Picabia est impliqué dans tout, c'est comme Vaché, hein, c'est la même chose avec Cravant, c'est aussi un personnage inventé à 100%, avec un ou deux scandales, mais la notoriété est sans commune mesure avec l'œuvre, si on compare à Jarry par exemple, avec l'œuvre effective et son impact, il n'y a pas d'œuvre de Cravant, ça, Cravant n'existe pas en fait au niveau du posthume. Mais... Picabia, c'est très très mystérieux. Et après, on a aussi toutes ces peintures faites d'après un transfert de photos tel quel. C'est quand même le type qui sort du post-impressionnisme en reproduisant des cartes postales dans des grandes peintures qui font 1m80 sur 1m20. C'est exactement ce que vous avez fait, ce que j'imagine, pratiquement le sujet des livres de vous que j'ai lus. C'est cette chose-là, on a cette espèce d'aspect dadaïste, de je sais pas, comme un deuil après 14-18, comme c'est un détachement de la réalité, du pathos, pas de pathos, moins de pathos possible. Bon, on va mourir, et alors, qu'est-ce qu'on a à foutre? Et on la joue pas couillu à la Picasso. On cherche une position de repli dans l'élégance qui soit quand même viable, qui soit quand même possible. Et il n'y a pas non plus le côté potache de Jarry. C'est un repli, hein, et évidemment que... Après, on a des gens comme Pessoa, comme Valser et tout ça, toutes ces positions de repli à quelque chose qui est très, très profond. Et c'est justement... J'ai moi-même d'écrire un petit livre, 37 conseils pour surtout ne pas écrire un livre. C'est pour le développement personnel. Et je n'avais pas du tout fait le rapport, c'est maintenant en écoutant votre échange que je me dis que c'est la même problématique, on a un problème avec la production. Vu que je fais cette émission depuis 2015 et que je reçois quand même beaucoup de livres et tout ça, je ne sais pas d'où ça m'est venu, cette idée de donner des conseils aux gens pour qu'ils n'écrivent pas de livres. Et je n'avais pas du tout pensé à Marbeuf, ni à Artiste sans œuvre ou à l'idiotie ou je ne sais pas quoi, mais... Au Nain de Jardin, hein. J'étais prof dans une école des Beaux-Arts aussi, et je crois que mes étudiants étaient à la base du kidnapping des Nains de Jardin, des demandes de rançon sur les enlèvements des Nains de Jardin. C'est une vraie problématique qui traverse le XXe siècle. Et puis le dandisme, enfin tout ça, le côté camp, le côté transgressif, effectivement le côté Bismans aussi, enfin tout le côté où les anarchistes, la fin du 19e siècle, posaient des bombes, tout ça, enfin tout ça a l'air tellement décalé, peu réel. Hein, ça, l'art, vous qui avez été rédacteur en chef d'Art Presse, l'art ces 50 dernières années est toujours dans une espèce de décalage, comme ça on a de la peine à... On n'est pas dans un Matisse Picasso en train de gratter un truc pour le tiercé ou je sais pas quoi, des gagnants. On a toujours un doute, une espèce d'ironie latente, un doute sur est-ce que c'est ça, est-ce que ça existe, est-ce que... D'où Uberoi, non ? Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais ça nous travaille, ouais. Du peu de réalité.
C'est ça, on a différents niveaux de réalité. Alors moi, je voudrais revenir sur les... Un petit paradoxe, mais il y en a beaucoup dans ce dont on parle. Puisque vous nous avez amené la... Vous avez apporté la voix de Marbeuf, et alors qu'on a, je crois, enfin hein, sauf erreur de ma part, on n'a pas la voix de Proust. Je ne crois pas qu'on ait de... On a des descriptions de la manière dont il parlait, on a des descriptions extrêmement précises et détaillées. Peut-être qu'une intelligence artificielle pourra nous proposer quelque chose d'assez ridicule dans les mois à venir, j'imagine. Mais on n'a pas cette voix. Alors que nous avons cet enregistrement, notamment, qui a été, je crois... produit pour la première fois lors de l'exposition dont vous parliez tout à l'heure. Et donc, on va écouter, et c'est quand même quelque chose d'assez rare, la voix de Félicien Marbeuf.
Sophocle, Antigone, par Félicien Marbeuf. Édition record. Nombreux sont les prodiges, et nul plus prodigieux que l'homme. Sa puissance franchit la mer blanchissante et, poussée par l'orageux vent du sud, se fraye une route sous des houles qui menacent de l'engloutir. Et la terre, des divinités l'aînée, l'immortelle, l'infatigable, certes, il la fatigue, retournant la glaive à l'aide de la jante chevaline dans les va-et-vient des chaluts d'année en année. Et la race, au cœur léger des oiseaux, et les tribus des bêtes féroces, et la faune des profondeurs marines, prend dans les mailles des filets qu'il tisse. Il les mène en captivité, lui, l'homme qui excelle en esprit. Et il maîtrise, par ses artifices, la bête dont le repère est au lieu sauvage, qui rôde par les collines. Il dompte le cheval à la crinière touffue. Il lui passe au cou le collier. Il dompte l'infatigable taureau des montagnes. Et le langage, et la pensée rapide comme le vent, et toutes les humeurs qui modèlent un état, à lui-même il les a apprises. Et comment fuir les flèches du gel, lorsque sur le ciel clair il est dur d'habiter, et les flèches que darde la pluie? En vérité, il a des ressources pour tout. Sans ressources, il n'affronte rien de ce qui doit venir. C'est contre la mort seule qu'en vain, il appelle au secours. Mais des mots déroutants, il a trouvé moyen de s'évader.
Aligre FM 93.1.
Voilà, petit moment d'émotion, puisqu'on vient d'entendre la voix de... Alors peut-être vous pouvez nous en dire plus sur cet enregistrement et la manière dont il est tombé entre vos mains.
Oui, alors moi, j'aimerais pas trop vous décevoir et briser vos rêves, mais je suis pas du tout sûr que ça soit la voix de Félicien Marbeuf. Ah. La raison pour laquelle je pense cela, c'est que... Donc, Félicien Marbeuf arrive au Canada et il quitte la France en 1906. Sa femme est morte, Louise Michel est morte. Son fils est mort en 1918. Il quitte ce continent, il arrive au Canada. Et là, sont commercialisés ce qu'on appelle les premiers rouleaux Edison. Hein. L'ancêtre des vinyles sont des rouleaux de cire sur lesquels on peut enregistrer jusqu'à 4030 de sons, de musique, etc. Et il aurait décidé, 1910 jusqu'à sa mort, d'enregistrer une encyclopédie de la poésie de manière exhaustive. Il veut tout enregistrer. Lucrèce, les antiques, le Ronsard, etc. Mais on sait aussi que... on sait que Marbeuf n'écrivait pas, mais on découvre aussi qu'il ne lisait pas.
Ça, c'est une des grandes révélations.
Oui, oui, tout à fait. Et que c'est Madeleine, sa femme, qui lui racontait les livres. Ouais. Qu'il était très, très érudit, mais lui-même n'ouvrait jamais un livre.
Et ça, c'est un coup de tonnerre quand il l'apprend à son correspondant illustre.
Tout à fait. Ouais. Alors, est-ce qu'il se serait mis à lire en arrivant à Glooskap ? Moi, j'y crois pas du tout. Je pense que c'est une hypothèse, j'ai pas de certitude, mais qu'il aurait plutôt demandé à des comédiens, des comédiennes. Il y a des voix féminines aussi parmi ces enregistrements, donc ce serait peut-être la preuve que Marbeuf n'a jamais rien enregistré de sa propre voix. Il existe 357 enregistrements, 357 rouleaux Edison, donc c'est une collection assez ambitieuse. Qui cesse à sa mort. Donc il aurait fait enregistrer ça jusqu'en 1924.
D'accord. Alors si on revient sur maintenant vraiment la correspondance proprement dite, bon, finalement dans cette correspondance, vous revendiquez, je pense, les notes de bas de page, enfin essentiellement. Et on peut dire qu'elle commence assez mal, finalement. C'est-à-dire que les premiers échanges ne sont pas extrêmement encourageants. Alors Proust, lui, il est... Il est vraiment ravi de s'adresser à Marbeuf, mais il est un peu douché, non ?
Bah oui, ça commence très mal, vous avez raison. C'est avec 1896, c'est le premier livre publié par le jeune Marcel Proust, « Les plaisirs et les jours », et qu'il adresse, comme on fait aujourd'hui, à des chroniqueurs, des journalistes influents dans la presse. La presse est plus importante qu'aujourd'hui. Mmh. Et il l'adresse évidemment, enfin je dis évidemment, à Félicien Marbeuf, parce que Marbeuf est une espèce d'arbitre des lettres. C'est Anna de Noailles qui le baptise ainsi, l'arbitre des lettres. Mmh. On ne sait pas trop comment il en est arrivé à représenter tant de pouvoir dans ce milieu, puisqu'il n'est pas universitaire, il n'est pas chroniqueur, il n'est pas journaliste, il n'est pas éditeur. Voilà, c'est un mystère, cela.
Enfin, et à ce moment-là, il est encore à Paris.
Oui, il est encore à Paris, oui, tout à fait. Mmh. Et donc, Marbeuf reçoit ce livre du jeune Marcel Proust, inconnu au bataillon. Et les deux lettres qui lui sont adressées, parce que la première lettre est une lettre assez raide, assez rêche, où il met en avant ce qu'il perçoit comme une forme de snobisme gratuit, d'arrogance sans épaisseur. Voilà. Et Proust revient à la charge, tellement obnubilé par ce que représente Marbeuf à l'époque, dit « Mais je crois n'avoir pas bien compris ce que vous voulez me dire. Que voulez-vous vraiment dire en me disant ceci ?» Et il veut croire qu'il y a un encouragement. Et l'encouragement, il le trouve dans un petit mot vaguement ironique à la fin, où il se focalise sur ce mot qui l'encouragerait à continuer, alors que tout dans ces deux lettres lui disent « Passez à autre chose, jeune homme ». Et puis par ailleurs, et c'est ce qui touche Félicien Marbeuf, il comprend que ce jeune Marcel Proust, qu'il ne connaît pas et qu'il ne connaîtra jamais, davantage que de connaître les raisons pour lesquelles Marbeuf n'aime pas ses livres, il désirait sincèrement savoir quel est le secret du silence de Marbeuf. Comment peut-on être si longtemps, si durablement, avec une telle abnégation, un écrivain sans œuvre ? Et Marbeuf est touché par cette curiosité qu'il pense sincère. Donc en effet, vous avez raison, ça commence sur un... douche froide, une double douche froide, et puis s'engage une correspondance qui va les mener jusqu'à la mort, tous les deux, où seront évoqués... ma foi, c'est marrant, vous parliez d'Arthur Cravant, une question qui est en effet capitale, c'est-à-dire que c'est la question de à partir de quand il y a de l'art, et à partir de quand il n'y en a plus. C'est-à-dire qu'il faut partir du principe que il y aurait à un moment donné, on aurait un objet, on aurait une chose, un phénomène, et puis on retirait de cet objet, de ce phénomène, de cet artefact, de l'épaisseur, de la couleur, de l'intensité, de l'émotion, de la surface, du bruit, et on retirait jusqu'à un moment où il n'y aurait presque plus rien. Et est-ce que dans ce presque plus rien, il y aurait encore de l'art que l'on pourrait percevoir ? C'est la grande question qui me tracasse, moi. C'est la question d'Arthur Cravant. C'est la question de Félicien Marbeuf. Et puis, surtout, je sais pas, on imagine qu'on fait une fête. On invite tous nos amis, on est 150, et puis il y a de l'alcool, et puis il y a de la musique. Et puis on se dit, on refait la même chose la semaine suivante, mais avec moins d'alcool, avec moins d'amis, moins de lumière. Et puis on recommence encore une semaine plus tard avec « On n'est plus que deux ». Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de musique, il n'y a plus d'alcool. Et puis on recommence. Et puis à quel moment cela cesse-t-il d'être une fête ? Et à quel moment peut-être cela commence-t-il à être le contraire d'une fête ? Voilà, c'est la question du moment. Et on en revient à cette question de l'intensité dans les phénomènes. Voilà, est-ce que... moi, c'est ce qui m'obsède, en fin de compte. Et c'est la raison pour laquelle j'ai inventé Marbeuf. Pour pouvoir me poser cette question-là très sereinement, avec un exemple sous les yeux. Parce que je ne suis pas un intellectuel au sens où... Moi, les idées, la philosophie, je me perds très vite. J'ai besoin d'une figure sous les yeux, de faits concrets. Je préfère écrire cette correspondance pour qu'elle existe et pouvoir m'y pencher. Je ne peux pas le faire de manière abstraite. J'ai besoin que Marbeuf, il existe, qu'il ait eu des coups de cœur, qu'il ait été amoureux de Madeleine. J'aurais besoin de savoir ce qu'il aimait manger, quelle était son odeur, l'odeur de son shampoing. Je dis n'importe quoi. J'ai besoin de savoir ces choses-là et je ne les connais pas. Mais il me sert à ça, en fait, à aller vers ce point... Et je ne parle pas de la vie, hein, je parle de l'art. Quand cesse la vie, ça, c'est trop évident, mais quand cesse l'art, c'est vraiment troublant, ça.
Oui, ce qui peut expliquer qu'il n'apporte finalement que peu de réponses. En général, on peut imaginer que Proust est assez déçu, parce que... Donc là, je cite sa question. Vous avez fait vœu... Il s'adresse à Félicien Marbeuf. Vous avez fait vœu de silence. J'aimerais... D'ailleurs, tant savoir si parfois cette ambition ne vous semble pas excessive, qui vous astreint à ne pas produire. Si je réchappe à ce duel ridicule, parce qu'il est aussi question d'un duel, qui est une histoire assez intéressante dans l'histoire, promettez-vous de me révéler le secret de votre passion, donc cette passion de l'inexistence artistique. Et je crois que Marbeuf répond positivement, il dit oui, enfin je ne sais plus de quelle manière il le dit, et pourtant on peut dire que il va le faire lanterner pas mal, c'est comme s'il voulait que Proust trouve ses réponses tout seul quoi finalement.
Peut-être, c'est une bonne hypothèse. Moi, je pense que, en effet, il laisse à Proust le temps de réfléchir par lui-même, mais je pense que la résolution du mystère est tellement ridicule que Marbeuf doit avoir un peu honte. C'est-à-dire que
c'est possible.
derrière une posture de vieux sage comme ça, d'ascète, de Siméon stylite sur sa colonne, en fait, les motivations, elles sont un peu enfantines. Donc peut-être qu'il a quelques réticences à avouer le
C'est probable. En tout cas, l'effet dans la correspondance est assez frappant parce que moi, je trouve qu'il y a un suspense s'installe, quoi. On se demande effectivement ce qui a pu arriver. Et au fur et à mesure qu'on avance, finalement, la ligne d'horizon se recule et jusqu'à ces révélations assez extraordinaires sur lesquelles, effectivement, Félicien Marbeuf n'a jamais rien lu. Alors ça, c'est vrai qu'on tombe d'assez haut quand même.
Oui.
On imagine que Proust aussi.
Oui, il a dû être troublé, oui. Oui.
Alors, à propos de Madeleine, et puis de manière générale, parce que c'est aussi une des choses les plus centrales qu'on apprend, finalement, c'est que cette non-influence et cette non-existence serait néanmoins, et assez paradoxalement, une des influences, voire une des inspirations de Proust. C'est un peu la...
Oui, mais même dans les dernières lettres, Marcel Proust lui-même invite son correspondant à reconnaître la part qu'il a eue dans l'écriture de La Recherche Temps Perdu, puisque jusqu'à l'expression des jeunes filles en fleurs, jusqu'au clocher de Martinville, jusqu'au style même des plus grands passages de La Recherche Temps Perdu, Proust les a prélevés, on va dire, dans les lettres que lui adresse Marbeuf. Donc, mais après, c'est une question subsidiaire, mais qu'est-ce qu'on doit à soi-même quand on accomplit une œuvre ? Parce qu'on doit quelque chose à soi-même voilà, le terme de pollinisation, et je crois d'ailleurs c'est Proust qui invente le terme de pollinisation, il faudrait vérifier, toute création n'est que pollinisation, c'est-à-dire prélever comme ça dans un écosystème alentour des éléments qui vont nous permettre de bâtir notre propre ruche. Ça c'est une évidence, Proust le sait très bien.
Alors là, on peut peut-être lire un morceau de la quatrième de couverture où vous avez choisi, j'imagine, parce qu'elle est assez... Elle est assez frappante, une des lettres écrites par Félicien Marbeuf qui s'adresse donc à Proust. « Cher Marcel Proust, je me vois obligé de vous faire savoir que vous vous êtes trompé sur mon compte. Vous ne m'avez pas compris et votre erreur est double. Je veux dire que vous êtes trompé d'erreur. Et je tiens à vous éclairer parce qu'il commence à se faire dramatiquement tard dans nos vies sur l'espèce de votre fourvoiement. Qu'appelez-vous ma modestie? Où en avez-vous déniché les traces? Je ne suis pas, contrairement à ce que vous avancez, l'auteur d'À la recherche du temps perdu. Non pas parce que cette assertion serait erronée dans les faits, mais tout simplement parce que je n'ai pas désiré que cela fût. On peut montrer tout autant d'ambition à ne pas faire qu'à faire. Je vous dis adieu, triste, sans rien retrancher de mon amitié. » On est tout à la fin de... Mm-hmm. C'était une des dernières lettres, c'est pas la dernière, mais...
Oui, oui, oui. Oui, oui, bah alors, ça c'est pour le coup... C'est assez frappant, et puis la leçon est rude, et en tout cas elle est très, très précisément énoncée, à savoir que ne pas faire peut nécessiter tout autant d'engagement, de volonté, que faire, que réaliser. Et ça, c'est très nietzschéen, je dirais. C'est très, alors pour le coup, je ne pense pas que Marbeuf Nietzsche, mais cette idée, par exemple, que voilà, je pense à ce que Nietzsche dit de la mémoire. Il dit voilà, la mémoire, c'est une chose que la culture nous a enseigné par la douleur, voilà, par la génuflexion, la flagellation. La crucifixion, et on tapait sur les doigts des enfants qui apprenaient mal leurs leçons, et on s'agenouillait pour ne pas oublier que le monde qu'on attendait, il était à venir, que voilà, que c'est par la douleur qu'on a enseigné à cet animal oublieux, dit Nietzsche, la mémoire, les vertus de la mémoire, alors que la mémoire n'a aucune vertu, en tout cas. Et c'est un mode de dressage qui mène à, dans cette généalogie de la morale que critique Nietzsche, il dit voilà, il y a cette chose-là que l'homme s'impose par la torture et la violence et la flagellation, qui est la mémoire. Et pour le coup, c'est vrai qu'on écrit des choses, on laisse des traces parce qu'on fait ce pari très scolaire et très sérieux et de la mémoire, laisser une trace, cette croyance en la postérité. Donc évidemment, Marbeuf... il adresse à Proust un message... alors, Proust, il a de la chance, ou du génie. Son œuvre est restée dans la mémoire collective. Mais pour combien d'écrivains dont l'œuvre a disparu dans les limbes de l'oubli? Et donc, il y a quelque chose là de très cinglant sur... voilà, est-ce que la mémoire mérite qu'on se batte pour elle, qu'on lui livre comme ça, comme une espèce de Moloch des aliments, des tribus, des... Non, peut-être pas, peut-être la mémoire est juste cette perversion culturelle, civilisationnelle dont parle Nietzsche.
Alors moi, j'ai une autre piste. Je pense à Maître Eckhart et à la théologie négative. On est dans des interrogations métaphysiques, en fait, sur ce qu'est l'art. Hein. Mais donc, le refus des idées, ça veut rien dire. Hein. Je veux dire, ben, c'est vraiment le coup de force de Borges d'avoir fictionné les idées. Et donc, on définit Dieu parce qu'il n'est pas. Et donc, est-ce que votre travail n'est pas... Moi, vous avez aussi parlé de miel, de ruche et tout. Et c'était toujours ma définition un peu naïve de la sublimation au sens freudien. Je me demandais toujours ce que c'était la sublimation. Et c'est clair que si je pense à un beau miel ou à quelque chose de ce type-là, mais à la fois à tous les niveaux esthétiques, gustatifs, tout ce qu'on veut, ça marche bien avec l'œuvre de Proust, par exemple. On peut isoler certaines pages qui ont la magie des mille et une nuits, quel que soit le sujet d'ailleurs traité, que ça soit... l'amour physique ou des choses comme ça. Et donc, ça serait une bonne hypothèse, cette espèce... Donc, il y a... Il y a deux paradigmes qui se rencontrent. Enfin, il y a un syntagme, comme on disait dans mes études structuralistes quand j'étais jeune, un syntagme et un paradigme qui se rencontrent. Le syntagme, il est historique, et le paradigme, c'est la dimension métaphysique, le questionnement. Donc on a l'état de l'art que vous avez vécu. Hein, entre telle et telle année, vous avez beaucoup parlé d'art, vous étiez critique d'art, beaucoup étaient en contact avec l'art et, ou la littérature, enfin un goût comme les lectures adolescentes et tout ça. Et puis cette interrogation, mais qu'est-ce que c'est ? Cette interrogation qui est d'une force et d'une naïveté totale, qui est celle d'un derviche tourneur. Mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça existe vraiment ? Et c'est ça en fait le questionnement. C'est, et il n'y a pas cette dimension sociale, par exemple, qu'on retrouve dans Ubu, hein, pour se prendre ce genre de questionnement métaphysique, ou dans Dada, cette désacralisation massive qui a lieu à un moment donné sur un objet qui est vénéré, et on dit mais non, il y a eu Verdun, non, plus ou moins inconsciemment, ou il y a la lutte des classes, ou il y a je ne sais pas ce qu'on veut, ou ma femme me trompe, enfin peu importe. Mais c'est bien ça, c'est une danse. Alors Nietzsche, l'absence de mémoire de Nietzsche, etc., oublié tout ça, c'est une danse, et Nietzsche, c'est Zarathoustra, je vais vous apprendre à lever les genoux, hein, c'est ce qu'il dit dans Zarathoustra. Donc là, on est en train de danser, en fait. Ce que vous essayez, c'est une valse lente, un peu triste, comme ça, enfin, comme je la vois d'un peu loin, mais vous dansez autour de cette interrogation.
Non, mais ce qui est
théologie négative, qu'est-ce que l'art ?
Voilà, et puis vous donnez la réponse, dans le sens où vous la voyez comme une valse lente. Et quand on parlait des abeilles, l'idée de butiner, qui veut dire d'avoir faire son butin, c'est un terme militaire d'ailleurs, hein, faire son butin, le sac d'une ville, c'est butiner une ville. Et c'est que moi, ce qui ne m'a jamais intéressé, c'est la sociologie, justement. C'est que le champ de l'art, ce que Bourdieu appelait le champ de l'art...
Est-ce que vous ne vous intéresse pas ?
Oui, enfin, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas comment l'aborder, ça ne me procure aucune sensation d'excitation que de savoir, que de comprendre ce qu'est sociologiquement le champ de l'art. En revanche, je sais que ce qui se passe dans cet espace-là, qui est un biotope, il y a des individus qui font des choses, chacun, voilà. Et que ces choses-là, qui sont des objets, qui sont des expériences, on peut s'en approcher et estimer si... Pour nous, à nos yeux, selon notre goût personnel et égoïste, c'est de l'art ou pas. C'est pour ça que l'expérience de l'art est une expérience extrêmement individuelle et personnelle et égoïste. Et que je suis toujours étonné que deux personnes se rencontrant constatent avoir les mêmes goûts, avoir aimé la même chose. C'est un mystère, ça. Et je pense que c'est un mensonge, surtout.
Mais vous n'êtes pas debordiste ou situationniste en disant « on va remplacer l'art par la vie ».
Non.
C'est pas ça, votre discours. Votre discours, c'est « qu'est-ce que l'art ?»
Qu'est-ce que l'art ? Qu'est-ce que l'art dans la vie ?
Qu'est-ce
que l'art dans la vie ? Ça peut être un dessin qu'on fait le matin dans le RER sur la buée du carreau.
Ce qu'a fait Marcel Brotars en écrivant « Papa » dans la buée de la salle de bain. Ouais.
Voilà, et Marcel Brotars, il commence à être artiste, selon lui, à 40 ans. Donc ce qui est beau aussi, c'est qu'il n'y a pas un moment dans la vie... On n'est pas tous... On n'est pas tous des génies précoces. L'art, il peut survenir à tout moment dans nos vies. Et Brotars en est un bon exemple.
Et donc, c'est un paradoxe. Ça prouve que vous avez une attirance très, très forte pour l'art, mais que vous ne trouvez pas cet objet. C'est pour ça que j'ai articulé sur la dimension historique du moment.
Mais oui, mais parce que on commence à s'intéresser aux choses quand elles n'existent plus.
Bah,
quand est-ce qu'on
donc
commence
l'art est mort,
bah, quand est-ce qu'on commence à faire des westerns, c'est quand on a tué tous les Indiens.
C'est bien, oui.
Bon, voilà, donc c'est comment on... c'est ces choses qui s'échappent, qui font que elles nous fascinent.
L'art est pour nous une chose du passé.
Bah oui, c'est cette lumière des étoiles qui prend du temps avant de nous parvenir. Oui.
En même temps, il y a cette dimension sublime. C'est formidable. On pourrait faire des heures sur ce genre de questionnement. Il y a cette dimension de sublimation. Comme on parlait de Joss, par exemple. La sublimation est tellement évidente. Quand on ouvre Ulysse, c'est presque une caricature. Quoi. Donc, et donc, il y a un tout venant dont on interroge la légitimité. Le questionnement est non seulement légitime, mais nécessaire. Et donc, ce que vous œuvrez, c'est un questionnement. ou de prendre drôle, la chose que... comme en, allant de soi, puisqu'on parle d'art aussi plastique, donc il y a le marché, tout ça, oui, comme, le marché. Que les choses vont de soi. Non, les choses n'en vont pas de soi. Petit art, tu vas devoir me prouver qui tu es. Et là, c'est le côté nietzschéen de toujours tout interroger, de tout remettre en question.
Mais c'est drôle le parallèle que vous faites, parce que entre... c'est vrai que... vous parlez de Joyce, et donc je pense à Beckett, comment Beckett a dû se battre
pour
devenir lui-même, ne pas être dans le sillage de du grand Joyce, et lui qui ne dansait pas, en effet, et Beckett ne dansait pas, et portait des chaussures à sa taille, et pas des chaussures trop petites pour souffrir des pieds, enfin voilà, il a...
Il dit à un moment, il est avec une femme, enfin c'est encore assez biographique dans ses premiers livres, il dit, elle est enceinte, et puis il y a un bébé, et puis il dit, s'il saute, il n'est pas de moi. Hein, c'est, donc là, c'est justement l'antidanse. Il en est conscient, et c'est un grand danseur des mots. Hein, c'est quand même... C'est un type qui arrive à écrire une page entière avec papa, maman. Et ça tient.
Sur Marbeuf, je crois que c'est la différence entre Beckett et Joyce, c'est que l'avantage ou l'intérêt de la position de Marbeuf, c'est qu'à aucun moment il a tenté de ne pas être Proust, puisqu'il n'a jamais été tenté. C'est Proust qui dit mais vous êtes un écrivain comme moi, ou vous avez et vous avez collaboré à l'écriture de mon œuvre. Et Marbeuf dit mais vous êtes trompé. C'est l'erreur que vous évoquiez tout à l'heure. Vous êtes trompé. C'est pas parce que je vous écrivais que je produisais de la littérature.
Doublement trompé.
Oui, doublement trompé. Oui,
est-ce que vous répondez à la question est-ce que l'art est supérieur à la vie ou vice versa? Vous répondez à cette question ou vous la laissez ouverte?
Tout à l'heure, vous avez presque répondu.
Oui, mais c'est tellement. Ah, ça dépend si on a mal au crâne, si on a des soucis. C'est tellement variable, ce genre d'intuition.
C'est difficile.
Ouais. Est-ce qu'on pense à l'art sur son lit de mort? Ouais.
J'ai loupé les deux dernières séances, malheureusement, de l'Encyclopédie des guerres, mais j'y suis venu en novembre, et c'est dommage, j'aurais voulu qu'on ait le plus de temps pour en parler, de l'Encyclopédie des guerres. Mais d'abord, il faut dire qu'elle est... d'une certaine manière en filigrane dans cette correspondance, parce qu'il y a quand même beaucoup de sujets militaires, de métaphores guerrières ou d'histoires de siège. Mais vous avez dit cette phrase vers la fin de la séance qui rejoint des choses que vous venez de dire ce matin sur la mémoire. L'histoire est une science auxiliaire de la littérature. Alors ça m'avait beaucoup frappé. Et si vous en avez juste une ou deux minutes pour finir sur un commentaire de cette phrase en rapport avec ce qu'on vient de dire, ça serait...
Ouais, pour expliquer, moi je suis resté focalisé et fasciné par une phrase de Jules Michelet dans son Histoire de France. Oui. Il dit, il faut imaginer Jules César entre deux crises d'épilepsie portées par ses centurions dans la haute forêt gauloise, à la recherche, écrit Michelet, d'un sujet à la hauteur de son génie littéraire. C'est-à-dire que Michelet, il nous explique que Jules César, il vient faire la guerre en Gaule, non pas parce que la guerre doit être faite en Gaule, il y a bien des endroits, et c'est ce qu'on appelle la Dacie à l'époque, c'est les rives du Danube, où les Romains devraient faire la guerre. Mais la Gaule est pacifiée, on se saisit d'un prétexte pour aller faire la guerre en Gaule. Et donc Jules Michelet explique que Jules César vient faire une résidence littéraire en Gaule. C'est-à-dire qu'il vient écrire un livre, qui va s'appeler « Commentaire sur la guerre des Gaules », mais il vient déclencher une guerre pour pouvoir écrire un livre sous son nom, qui lui vaudra la reconnaissance et puis l'Empire. Ça, c'est un point de vue de Jules Michelet, très littéraire, pas très fiable d'une certaine manière, mais il faut savoir que les historiens ont toujours été des grands romanciers, enfin, Quintet Curce, Hérodote lui-même, Michelet, voilà, étaient des gens... Michelet, son auteur préféré, c'était Walter Scott. Donc, que les historiens racontent des histoires, produisent de la littérature, me met sur la piste de cette hypothèse, à savoir que, en effet, l'histoire est une science auxiliaire, comme la vexillologie, ou l'art des blasons, ou l'art des sceaux, est une science auxiliaire de la littérature, et que tout doit se mettre au service de la littérature, mais...
Merci, on est obligé de terminer. Je tiens à remercier Enrico Mastro Giovanni qui assurait la technique de l'autre côté de la vitre. Merci Enrico et à la semaine prochaine. Maintenant, nous passons l'antenne à Cause Commune. Et bonne journée.
Aligre FM 93.1.